Et donc aujourd'hui, le prétexte, c'est ça, c'est cette question qu'on peut se poser à de multiples occasions dans la vie quotidienne, qui est comment trouver le chemin le plus court? Évidemment, c'est une question intéressante parce que ça peut nous faire gagner du temps, de l'argent. Donc, il y a plein de problèmes concrets qui se posent derrière ça. Et mon objectif ce soir, c'est de vous montrer, de la manière la plus élémentaire possible, quelques développements mathématiques qu'on peut faire autour de cette question. Et vous montrer qu'il y a énormément de problèmes mathématiques qui sont liés à la recherche du plus court chemin. Certains qui sont restés insolubles par les savants pendant plusieurs siècles, avant d'être finalement résolus. Et puis d'autres qu'on ne sait même pas encore résoudre complètement aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Donc évidemment, si on cherche le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, vous savez tous que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, évidemment, c'est la ligne droite. Donc ça y est, on a résolu notre problème. On peut terminer la conférence ici. Bon, sauf que si je vous demande de m'expliquer maintenant qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite, est-ce que vous allez savoir me donner une définition facile comme ça? C'est pas forcément évident de trouver une ligne droite. Bon, évidemment, là, le segment rouge que j'ai tracé sur l'écran ici, ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une ligne droite. Donc c'est pas, c'est quelque chose que bon, on m'a appris à l'école, c'est ce qui est donné par le bord de la règle. Ok, c'est bien, mais je sais pas comment on a tracé le bord de la règle. Bon, enfin, en tout cas, c'est l'idée intuitive qu'on a du chemin plus court pour aller d'un point à un autre. Ok, alors est-ce que c'est toujours, est-ce que ça correspond toujours à ça? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans la première partie de cet exposé. Alors pour ça, on va commencer à prendre un petit peu de hauteur. Donc imaginez que je veuille aller de Rouen au Havre, ici. Alors je vais vous proposer deux chemins différents. Il y a un chemin très naturel qui serait de suivre le cours de la Seine, comme ça, en suivant tous les méandres. Et bon, on a mesuré approximativement la longueur de ce chemin-là, ça fait environ 126 km. Et puis on va comparer ça avec le trajet qu'on pourrait faire à vol d'oiseau, comme ça, en hélicoptère, je sais pas. Si on y va vraiment dans ce qui semble être une ligne droite ici, voilà, ça fait 74 km. Et effectivement, sur cet exemple-là, bon, bah, on voit bien que à cause de toutes les circonvolutions que fait la Seine entre les deux, ça rallonge le chemin, mais on ne voit pas comment faire plus court que la ligne droite qui est entre Rouen et Le Havre. Okay. Bon, mais maintenant, on va essayer de prendre encore plus de hauteur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et au lieu de relier Rouen au Havre, imaginez que je veuille relier Rouen à Vancouver. Alors, j'ai pris Rouen et Vancouver parce que donc c'est deux villes qui sont à peu près la même latitude sur le globe terrestre, ils sont à peu près toutes les deux au niveau du 49e parallèle. Alors, justement, si je regarde le chemin en suivant ce 49e parallèle pour aller de Rouen à Vancouver, donc ce qui apparaît ici comme un segment horizontal, un segment de droite horizontale, et si on mesure la longueur du chemin qu'on parcourt comme ça, ben ça fait environ 8950 km. Alors ce chemin qui apparaît ici comme la ligne droite sur la carte, en fait, ce n'est pas du tout le chemin que va prendre un avion qui irait de l'aéroport de Rouen à l'aéroport de Vancouver. Si on regarde le trajet que suivra un avion, en fait, ce serait quelque chose comme ça. Donc ce serait un trajet qui apparaît courbe ici, qui va passer au-delà du cercle arctique ici, et qui mesure en fait à environ 7770 km. Donc beaucoup plus court que ce 49e parallèle. Bon, alors, c'est pas très très mystérieux pourquoi il y a une espèce de paradoxe ici. Vous avez bien compris que j'ai représenté le globe terrestre ici sous forme d'une carte plane, hein, en le projetant sur l'écran, et que cette projection du globe terrestre, vous savez que, j'espère que vous êtes tous convaincus ici que la Terre c'est approximativement une sphère, vous ne faites pas partie des gens qui pensent qu'elle est plate. Donc, la Terre étant approximativement une sphère, quand je la projette sur une surface plane comme l'écran qui est ici, je suis obligé de faire des déformations. Je ne vais pas conserver les distances. Et donc, ce qui apparaît comme une ligne droite ici, là, le 49e parallèle, évidemment, n'est pas une ligne droite à la surface de la Terre. D'accord ? Donc, j'ai déformé les distances, donc ça peut être compréhensible que, effectivement, ça ne soit pas respecté notre intuition là-dessus. Mais alors, le problème, c'est ça, c'est ok, le 49e parallèle n'est pas une ligne droite à la surface de la Terre, mais qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite à la surface de la Terre? Parce que, évidemment, Si vous prenez une sphère et que vous essayez de mettre une ligne droite sur la sphère, vous n'allez pas y arriver. Hein, le bord de la règle, il n'arrivera jamais à se coller parfaitement sur, la surface d'une sphère. Donc, comment on peut faire pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça sera l'analogue d'une ligne droite à la surface de la sphère. Alors, je vais vous proposer une alternative. C'est que, OK, il n'y a pas de ligne droite à la surface de la sphère, pas de ligne droite au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au bord de la règle. D'accord ? Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire quand je suis à la surface de la Terre, et ce que je peux faire d'ailleurs sur n'importe quelle surface, c'est je peux toujours avancer tout droit devant moi. Ça, je peux toujours faire. Alors, je vais vous proposer même une méthode bien, bien simple pour aller tout droit devant soi. Vous prenez un vélo ordinaire. Donc, le vélo, lui, il a un guidon qui vous permet d'aller à droite, à gauche, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une barre supplémentaire pour interdire au guidon de tourner ni à droite ni à gauche. Donc, vous allez obtenir un vélo spécial qui ne peut aller que tout droit. Okay, imaginez que vous êtes à la surface de la sphère et que vous allez avancer avec ce vélo-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire un trajet qui pourrait ressembler à une ligne droite, finalement, à la surface de la Terre. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce genre de trajet. Alors, j'ai appelé ça le vélo d'Ezik, parce qu'en fait, une courbe qu'on va parcourir en allant tout droit sur une surface, c'est ce qu'on appelle une géodésique. Donc, j'emploierai de temps en temps ce mot-là. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme courbe donc, quand on va tout droit à la surface de la Terre? Alors, pour comprendre un petit peu ça, imaginez que d'abord je sois tout près du pôle Nord. Et je vais essayer de parcourir un parallèle. Vous voyez, j'ai fait un parallèle. Donc, un parallèle, c'est une courbe qui comprend tous les points qui sont à la même distance du pôle Nord. Ici, c'est un cercle, oui, bien sûr. Et donc, je vais parcourir ce parallèle en allant toujours vers l'ouest. Donc, je vais de l'est vers l'ouest toujours. Donc imaginez que je veux parcourir ce parallèle-là avec un vélo, pas le vélo qui va tout droit, parce que là je ne vais pas pouvoir, mais avec un vélo normal, de quel côté est-ce que je vais tourner pour faire ce parallèle-là? De quel côté je vais tourner mon guidon? Ah oui, ici, il va tourner à droite. Hein. Ok, je suis plus obligé. Donc voilà, vous voyez bien que ce n'est pas une ligne droite à la surface de la Terre, je suis obligé de tourner à droite. Ok, donc retenez bien que j'allais toujours vers l'ouest ici. Maintenant, je vais faire la même chose, mais du pôle sud. Okay, là, je suis descendu au pôle sud. Je vais toujours vers l'ouest, hein, je suis toujours dans la même direction. Donc, je parcours toujours le parallèle dans le même sens, mais vous voyez, je vais avoir cette courbe-là à décrire. Et là, vous voyez de quel côté je vais tourner mon guidon pour la parcourir. Je vais tourner le guidon à gauche. Ouais. Donc ça veut dire que si j'ai un parallèle près du pôle sud, je tourne le guidon à droite. Si j'ai un parallèle près du pôle nord, je tourne à droite. Pôle sud, je tourne à gauche. Et en fait, imaginons ce qui se passe si je fais glisser mon parallèle, comme ça, le long de la Terre. Okay. Ben, vous voyez que donc, tout en haut, je tourne à droite, tout en bas, je tourne à gauche. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Plus mon parallèle va se rapprocher de l'équateur, et moins je vais avoir besoin de tourner à droite. Et puis, ici, je vais aller de plus en plus à gauche, ici. Et entre les parallèles qui sont dans l'hémisphère nord et ceux qui sont dans l'hémisphère sud, en fait, il y a un parallèle extrêmement particulier qui s'appelle l'équateur, qui, lui, je vais réussir à parcourir en allant toujours tout droit. Okay. Et donc, c'est ça ce qui va être les géodésiques à la surface de la Terre, donc qui pourrait être l'analogue des lignes droites. Ça va être ces courbes qui sont de la même nature que l'équateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands cercles de la Terre. Les grands cercles de la Terre, ça va être ce qu'on obtient comme intersection de la surface de la Terre avec un plan qui va passer par le centre de la Terre. Okay, c'est les plus grands cercles qu'on peut tracer à la surface de la Terre. Alors, donc, revenons un petit peu à notre problème pour aller de Rouen à Vancouver. On avait vu que le 49e parallèle, donc voilà donc, ce qu'on vient de voir. Si je parcours ce 49e parallèle à vélo, je vais être obligé de tourner à droite, légèrement, mais quand même un petit peu. Et si je vais prendre donc ce grand cercle, en fait, il y a un unique grand cercle qui est déterminé par les deux villes de Rouen et Vancouver. Et puis, il est obtenu en prenant le plan qui passe par Rouen, Vancouver et le centre de la Terre. Je coupe la Terre avec ça. Donc, si je suis cet arc de grand cercle pour aller de Rouen à Vancouver, je vais obtenir la géodésique qui joint Rouen à Vancouver et qui est le chemin le plus court pour aller de Rouen à Vancouver. Et donc ce chemin le plus court, il monte jusqu'au 68e parallèle à peu près. Et donc ok, donc on a ainsi découvert qu'est-ce que c'est que l'analogue d'une ligne droite à la surface de la Terre. Donc sur une sphère, une ligne droite, donc une géodésique, c'est les grands cercles de la sphère. Ok, alors je vais faire une petite parenthèse ici pour vous. On va remonter un peu le temps, on va revenir à un mathématicien que peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle Euclide. Donc c'était un mathématicien grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, et il a écrit un monument qui s'appelle Les éléments, donc qui est vraiment le premier traité de mathématiques, disons. Qui a exploré de manière systématique un certain nombre de problèmes, en particulier la géométrie et la théorie des nombres. Et donc c'est un ouvrage extrêmement important qui est resté une référence pendant, je dirais, des millénaires. C'est un des ouvrages qui a été le plus édité, sûrement un des premiers aussi à avoir été imprimé au moment où on a inventé l'imprimerie. Donc ce qu'il avait de particulier, c'est que c'était la première fois qu'on présentait un traitement mathématique de manière donc systématique. Et quelle était la méthode d'Euclide? Il partait d'un certain nombre de vérités évidentes, qu'il appelait les axiomes, et à partir de ces axiomes qu'il posait comme vrais, il faisait des raisonnements logiques pour en déduire d'autres énoncés, qui étaient donc vrais eux aussi, et qu'il appelait les théorèmes. Donc, dans le premier tome des éléments, il traite de la géométrie du plan. Et donc voilà, rapidement, dans un langage un petit peu plus moderne que ce qu'il avait énoncé, évidemment, les cinq axiomes qu'il posait pour la géométrie du plan. Donc le premier axiome, c'était que si j'ai oublié de dire, évidemment, qu'est-ce que c'est les objets qu'il considère dans la géométrie du plan? C'est les points, les droites, les angles, les cercles, les objets comme ça, hein. Donc, premier axiome, c'est que si j'ai deux points dans le plan, je peux toujours les relier par un segment de droite. Le deuxième axiome, c'est que si j'ai un segment de droite, je peux le prolonger indéfiniment en une droite. En une ligne droite, voilà. Le troisième axiome, c'est que si j'ai deux points, je peux toujours tracer un cercle dont le centre est un des deux points et qui passe par le deuxième point. L'axiome 4 est un petit peu plus compliqué. Il dit que tous les angles droits sont congruents. Donc congruent, ça veut dire en gros que je vais pouvoir passer d'un angle droit à un autre angle droit par une transformation qui ne va pas modifier les distances. C'est à peu près... C'est l'idée qui est là derrière. Et puis le cinquième axiome, qui est le plus important, c'est celui qui va m'intéresser dans la suite, c'est ce qu'on appelle l'axiome des parallèles. Et qui dit que si j'ai une droite et un point extérieur à cette droite-là, alors je peux tracer une unique droite qui passe par le point que je me suis donné et qui est parallèle à la première droite. Donc c'est l'axiome des parallèles. Et alors cet axiome-là, il a occupé les mathématiciens pendant plusieurs siècles, jusqu'au 19e siècle quasiment, parce que beaucoup de gens se sont arrachés les cheveux en essayant de prouver que cet axiome-là était une conséquence des quatre axiomes précédents. Ils pensaient que c'était obligatoire d'avoir cet axiome-là. Alors, on va en parler juste maintenant. Et donc, juste avec ces axiomes-là qu'il avait posés, bon, il y avait un certain nombre de théorèmes qu'on pouvait montrer. Ouais.
L'axiome 5, c'est bien spécifié, c'est dans le plan.
Ah oui, c'est la géométrie du plan, hein. On est d'accord, c'est la géométrie du plan. Et j'ai oublié de préciser que ce qu'on appelle droite parallèle, deux droites sont parallèles si elles n'ont pas de point commun. Et donc, une fois qu'on a posé ces axiomes-là, donc Euclide montre un certain nombre de théorèmes, et vous êtes assez familier de ces théorèmes-là, puisque de toute façon, la géométrie euclidienne, c'est celle qui est enseignée à l'école, au collège, au lycée, c'est celle avec laquelle on est familier. Elle n'a pas énormément évolué. Depuis Euclide, tout ce qui avait été démontré par Euclide à l'époque, ça reste toujours vrai. Mais donc voilà, un exemple d'énoncé que prouve Euclide et qu'on prouve encore à l'école maintenant, c'est que si je prends un triangle dans le plan, et si je mesure les trois angles de ce triangle-là, la somme des angles fait 180 degrés. Ou deux angles droits. Bon, Alors maintenant, on a une nouvelle géométrie finalement, parce qu'on a notre objet qui est la sphère, et on a trouvé finalement quelque chose qui s'apparente à des droites sur la sphère. Hein, on pourrait s'interroger qu'est-ce que c'est que cette nouvelle géométrie qu'on a sous la main maintenant. Alors, le premier axiome, vous voyez, deux points distincts peuvent être reliés par un segment de droite. Ça, on l'a fait tout à l'heure avec la ville de Rouen et Vancouver. Hein, on a vu, on peut toujours prendre le plan qui passe par ces deux villes-là et qui passe par le centre de la Terre. Ça va nous donner une géodésie qui va joindre les deux, il n'y a pas de problème. Après, une fois que j'ai un segment de droite, je peux toujours le prolonger indéfiniment en une ligne droite. Évidemment, je vais tracer le grand cercle sur lequel j'ai porté le segment de droite. Tout va bien. Je peux tracer un... Si je me donne deux points, par exemple ici, j'ai pris le pôle Nord et puis la ville de Rouen ici, ben, je peux toujours tracer un cercle centré au premier point et qui passe par le deuxième point. Bon, ici, ça va être le 49e parallèle, par exemple. Donc, tout va bien. Alors, les angles droits sont congruents, oui, c'est vrai aussi. Si je prends deux angles droits quelconques sur la sphère, je vais pouvoir toujours trouver une transformation de la sphère qui emmène un angle droit sur l'autre et qui ne va pas changer les distances sur la surface de la sphère. Donc, les quatre premiers axiomes sont satisfaits. Par contre, si je regarde le cinquième axiome, le fameux axiome des parallèles, donc, étant donné une droite, donc ici, j'ai pris un grand cercle, et puis un point extérieur à cette droite, est-ce que je peux trouver une parallèle qui passe par ce point? Ben non, je ne peux pas. Hein, et en fait, il n'y a aucune droite passant par ce point et parallèle à la première. Parce qu'en fait, à chaque fois que je prends deux droites distinctes, c'est-à-dire deux grands cercles à la surface de la sphère, ils vont toujours avoir deux points communs. On ne peut pas faire autrement. Donc en fait, on ne peut pas tracer deux droites parallèles à la surface de la sphère. Okay, donc là, on est dans un exemple de géométrie qui vérifie les quatre premiers axiomes d'Euclide, mais ne va pas vérifier le cinquième axiome d'Euclide. On peut faire quand même des géométries, on peut mesurer des distances, on peut mesurer des angles, on peut faire des tas de choses. Et on peut constater qu'est-ce qui se passe. Alors par exemple, dans cette géométrie-là, il se passe des choses auxquelles on n'est pas habitué dans notre géométrie habituelle. Par exemple, je peux trouver un triangle sur la sphère qui a trois angles droits. Vous voyez, j'ai tracé un triangle en prenant deux points sur l'équateur, et puis le troisième point, c'est au pôle Nord ici. Et ce triangle-là, il a trois angles droits. Donc 3 fois 90, ça fait 270 degrés, la somme des trois angles. Okay. Et en général, on peut vérifier que si, à chaque fois que je vais tracer un triangle à la surface de la sphère, la somme des trois angles va toujours dépasser 180 degrés. En fait, si je trace un tout petit triangle sur la sphère, moi, la somme des trois angles va être proche de 180 degrés. Par contre, plus je vais agrandir ce triangle-là, et plus cette somme va augmenter. Et en fait, on peut aller à l'extrême, on peut aller jusqu'à 900 degrés comme somme des trois angles d'un triangle. Donc voilà, on a d'autres théorèmes, on a d'autres géométries ici. Alors, donc cette géométrie, puisqu'elle ne vérifie pas le cinquième axiome d'Euclide, c'est ce qu'on appelle une géométrie non euclidienne. Donc pendant des siècles, les mathématiciens ont essayé de montrer qu'il n'existait pas de géométrie euclidienne, que toutes les géométries forcément étaient euclidiennes. On ne pouvait pas faire autrement que d'avoir les théorèmes prouvés par Euclide. Et au début du XIXe siècle, en fait, il y a trois mathématiciens qui ont découvert, de manière plus ou moins indépendante, en fait, une nouvelle géométrie qui n'était pas euclidienne et qui n'est pas cette géométrie sphérique encore. Celle-là, elle a été introduite un petit peu plus tard. Donc ces trois mathématiciens, c'était d'abord Gauss, et puis après un mathématicien hongrois qui s'appelle Bolyai, et puis un autre russe qui s'appelle Lobachevsky. Donc ils ont développé une autre géométrie qui s'appelle la géométrie hyperbolique. Donc je vais dire quelques mots après. Alors Gauss, en fait, qui a été le premier à avoir ces idées-là, il était tellement effrayé par ces idées-là, il s'est dit les autres ne vont pas être mûrs pour les entendre. Et il a même refusé de publier ces idées-là. Et donc la géométrie hyperbolique, maintenant, elle s'appelle la géométrie de Bolyai et Lobachevsky, parce que c'est eux qui l'ont publié la première. Alors, on va parler un petit peu de cette géométrie hyperbolique, maintenant, qui est donc une autre géométrie que celle de la sphère. Donc, dans un modèle relativement simple, qui s'appelle le disque de Poincaré. Alors, Poincaré, donc, c'est un autre mathématicien du 19e siècle, fin 19e, début du 20e, donc un grand mathématicien français, qui a beaucoup travaillé sur cette géométrie hyperbolique. Donc, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a vraiment bien expliqué, et il avait un modèle particulièrement agréable pour la présenter. Et donc je vais même reprendre son idée pour présenter les principales idées de ce disque de Poincaré. Alors, Le disque de Poincaré, donc comme son nom l'indique, c'est un disque, c'est-à-dire une zone du plan qui est à l'intérieur d'un cercle. Ok, donc pour nous, qui sommes des observateurs extérieurs à ce disque-là, c'est un univers qui est complètement clos, borné. Donc on voit très bien. Mais à l'intérieur de ce disque, en fait, il se passe des choses bizarres. Donc les habitants qui sont à l'intérieur de cet univers-là, ils obéissent à certaines lois physiques qui sont complètement inhabituelles. Et pour eux, donc ils vivent dans cet univers clos, en fait, ils n'ont pas du tout l'impression d'être dans cet univers clos. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première chose à savoir, c'est que d'abord, la température n'est pas uniforme dans ce disque. Donc je l'ai représenté ici par un dégradé de couleur. En fait, la température est maximum au centre du disque et elle décroît à mesure qu'on s'éloigne du centre du disque et qu'on se rapproche du bord. Et en fait, bon, elle décroît suivant une formule mathématique bien précise que je ne vais pas exposer ici, mais il suffit de savoir que donc elle est maximum au centre, elle décroît quand je vais vers le bord, et en fait, au bord, elle atteint le zéro absolu. Donc, suivant une formule précise. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, c'est que donc, les lois de la physique à l'intérieur de ce disque-là sont un petit peu étranges. C'est que tous les corps qui sont dans cet univers-là, ils ont une taille qui est proportionnelle à la température du point où ils se trouvent. Donc, si j'ai un habitant... une chose à préciser aussi, c'est que les habitants de cet univers-là sont absolument insensibles au froid, donc ils peuvent s'approcher arbitrairement près du bord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand un habitant du disque de Poincaré va s'approcher du bord? Au centre, il avait cette taille-là, et puis à mesure qu'il va s'éloigner du centre, sa taille va diminuer. Okay, sa taille va diminuer, 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 et plus il va s'approcher du bord, plus elle va s'approcher de zéro, la taille. Donc, et ce qui fait que plus il va s'approcher du bord, plus la taille de ses pas va diminuer. Et donc, en fait, il pourra faire une infinité de pas, il n'arrivera pas à toucher le bord. Et donc, pour lui, le bord du disque de Poincaré est quelque chose de complètement inaccessible. Parce que plus il va s'approcher, plus lui-même va rétrécir, et donc il ne pourra pas y arriver à la fin. Donc, lui, il a l'impression d'être dans un univers infini. Une chose importante aussi à remarquer, c'est que lui-même n'a pas le sentiment de rapetisser. En effet, si jamais il lui prenait l'idée de se mesurer, il emmène son maître avec lui. Et le maître, il obéit aussi aux mêmes lois physiques. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il va avancer vers le bord, le maître va diminuer avec lui. Donc à chaque fois, s'il mesurait 1,50 m au milieu, le maître qui diminue avec lui, il va toujours lui dire « tu mesures 1,50 m ». Donc lui, il n'a pas du tout le sentiment de diminuer de taille. C'est seulement nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on constate bien qu'il diminue de taille, mais lui, il ne s'en rend pas compte. Donc voilà comment ça se passe dans ce disque de Poincaré. Alors maintenant, imaginez que je suis dans le disque de Poincaré, je suis en A ici, et je veux rejoindre cette autre personne qui est en B ici. Et je veux trouver le chemin le plus court pour aller de A à B. Donc quelle va être la stratégie? Est-ce que ça va être vraiment le segment de droite ici pour aller de A à B? En fait, non, l'idée, ça va être plutôt de dire, si je me rapproche un peu du centre, en fait, je vais un peu grandir, donc mes pas vont être plus grands, et donc j'aurai l'impression que le chemin est plus court. Et donc le chemin le plus court pour aller de A à B dans le disque de Poincaré, ça va être une espèce de courbe, comme ça, qui va un petit peu vers le centre du disque, pour profiter justement de cette de pas un petit peu plus grand. Alors on peut faire des calculs mathématiques un petit peu violés, qui dépassent largement le cadre de cet exposé-là, mais qui donnent exactement quelle est la forme du chemin le plus court dans le disque de Poincaré. Et la forme du chemin le plus court, c'est un arc de cercle. Et alors c'est pas n'importe quel arc de cercle, on peut montrer que les géodésiques dans le disque de Poincaré, ça va être les arcs de cercle qui sont exactement perpendiculaires au bord du disque de Poincaré, à l'endroit où elle le croise. Alors il y a un cas particulier qui va être aussi, donc l'arc de cercle limite, ça va être un diamètre du disque de Poincaré. Ça aussi c'est une géodésique. Okay. Donc à partir de là, on a à nouveau défini qu'est-ce que c'est qu'une droite dans ce disque de Poincaré, donc une nouvelle géométrie. Et donc on va essayer de voir un petit peu comment elle se comporte. Est-ce qu'elle se comporte un peu comme la géométrie qu'on a vue à la surface de la sphère, ou est-ce que c'est complètement différent? Alors pour ça, je vais essayer de faire fonctionner. Un petit logiciel. Alors, c'est un logiciel de géométrie dynamique. Donc, je sais pas, vous êtes peut-être familier d'un logiciel comme GeoGebra, par exemple, qui vous permet de définir des objets géométriques et puis de les manipuler, tracer des segments, des choses comme ça. Mais a priori, je crois que GeoGebra n'a fait que de la géométrie euclidienne. Alors, il y en a un qui s'appelle CarMetal, qui fait de la géométrie euclidienne, mais qui permet aussi de faire de la géométrie hyperbolique. Donc, je vais essayer de le faire fonctionner avec vous. Donc voilà le disque de Poincaré ici. Alors je peux tracer, alors je peux créer des points. Par exemple, voilà, j'ai créé deux points ici. Et puis je peux tracer la droite qui joint ces deux points-là. Donc je vais prendre l'outil créer une droite ici. Voilà, je prends ce point, je prends ce point. Voilà la droite qui passe par les deux points. Donc comme je vous ai dit, c'est un arc de cercle qui est perpendiculaire au bord du disque de Poincaré. D'accord. Alors, on peut voir comment varie cette droite-là quand je bouge les points. Vous voyez, ça fait toujours des arcs de cercle comme ça. Voilà. Alors, on peut s'intéresser aux axiomes d'Euclide. Je ne vais pas les passer en revue un à un. On va surtout regarder le dernier, le fameux axiome des parallèles. Qu'est-ce qui se passe si je prends donc une droite, celle-là? Et si je prends un point extérieur à la droite, est-ce que je peux tracer une parallèle à cette droite-là? Bah oui, en fait, je peux en tracer une. Hein. Il suffit que je prenne, par exemple, ce deuxième point-là, et je vais tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Voilà, ça c'est une parallèle, elle ne coupe pas l'autre droite. Okay. Mais est-ce que c'est la seule? Ben non, sûrement pas. Hein, parce que je peux tracer, par exemple, cette droite-là, qui est aussi parallèle. À la première, elle la coupe pas non plus. D'accord? Je peux en tracer plein, hein. Je peux tracer celle-là. D'accord? Et tout ça, c'est des droites qui sont parallèles à la première. Ouais. Non, non, la définition de parallèle dans le plan, c'est deux droites qui ne vont pas se couper. Moi, je sais pas exactement, j'ai pas lu Euclide dans le texte, hein. Ça, je peux pas vous dire. Mais. Dans cette géométrie-là, on peut définir les parallèles comme des droites qui ne se coupent pas. Et voilà, on a parfaitement l'existence, donc non seulement d'une droite parallèle passant par un point, mais en fait d'une infinité de droites parallèles. Okay, et donc, ça va à l'inverse de la géométrie sphérique. Dans la géométrie sphérique, on ne pouvait pas tracer de parallèles. Ici, on peut en tracer plein. D'accord. Là, on peut s'interroger. On avait vu une différence importante dans la géométrie sphérique, qui était la somme des angles d'un triangle. Alors, regardons la somme des angles d'un triangle dans cette géométrie-là. Je vais faire un triangle. Donc voilà un triangle hyperbolique. Donc, comme vous voyez, au niveau des angles, c'est un petit peu aplati par rapport à la géométrie euclidienne. Les angles, c'est vraiment comme on les mesure en géométrie euclidienne, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'ici, la somme des angles est un petit peu plus petite que 180 degrés. Et si jamais je bouge mes points, que je les rapproche du bord du disque, avec plus je les rapproche, et plus les angles deviennent pointus. Okay, et en fait, plus ça va, et plus la somme des angles va s'approcher de 0 degré. Plus mes points vont à l'infini, c'est-à-dire au bord du disque, et plus les angles vont se rapprocher de 0 degré. Okay. Donc contrairement à la géométrie sphérique, où la somme des angles était toujours plus grande que 180, la géométrie euclidienne, où la somme des angles vaut toujours exactement 180, ici, dans la géométrie hyperbolique, la somme des angles est toujours plus petite que 180. Donc ça va complètement dans l'autre sens. Alors, je vais revenir à ma présentation pour vous montrer une autre différence avec la géométrie du plan. Bon, ça, c'est les dessins qu'on fait avec CarMetal, mais vous les avez vus en direct. Alors, une autre différence avec le plan euclidien, c'est les histoires de pavage, par exemple. Alors, vous savez que dans le plan euclidien, par exemple, je peux réaliser un pavage du plan avec des hexagones réguliers. Alors, vous avez tous vu des carrelages avec des tomettes hexagonales et tout, ça, on peut le faire. Par contre, si j'avais des carreaux qui étaient de la forme de pentagones réguliers, j'aurais bien du mal à faire un pavage avec, parce que chaque fois que je vais mettre deux pentagones comme ça, vous voyez qu'ici, au niveau des angles, il va y avoir les deux autres qui vont se chevaucher. C'est impossible de faire un pavage avec des pentagones réguliers dans le plan euclidien. Okay. Bah, la bonne nouvelle, c'est que dans le plan hyperbolique, on peut. Donc voilà un pavage du disque hyperbolique qui est fait avec des pentagones réguliers. Okay. Alors vous n'avez peut-être pas l'impression, mais toutes les figures qui sont colorées ici sont des pentagones réguliers. C'est-à-dire qu'ils ont bien 5 côtés qui sont tous de la même longueur, qui sont des segments de droite, des droites hyperboliques, bien sûr. Et ils ont donc tous la même forme. Simplement, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on ne voit pas ça comme des pentagones usuels, mais c'est bien des pentagones réguliers au sens hyperbolique. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas pouvoir le réaliser avec un pentagone de n'importe quelle taille. C'est-à-dire que si je veux réaliser un pavage comme ça, j'ai vraiment une taille de pavé qui est possible. Si je diminue la taille de mon pentagone, ça ne va plus marcher. Ou si je l'augmente, ça ne va plus marcher non plus. Ou alors, ça va être un autre genre de pavage. Okay. Donc voilà, des choses qui sont complètement différentes suivant qu'on passe d'une géométrie à une autre. Bon, alors ça termine en gros la première partie que je voulais vous présenter. Il reste deux autres problèmes que je voudrais aborder rapidement avant la fin. Donc le premier problème qui reste, là on s'est intéressé à comment joindre deux points par le chemin le plus court. Il y a énormément de problèmes qui se posent dans la vie réelle, qui est comment on joint plusieurs points maintenant par le chemin le plus court. Donc il y a des tas de problèmes différents. Il y a le problème du voyageur de commerce, par exemple. Si je veux visiter un certain nombre de villes et rentrer chez moi, dans quel ordre je dois visiter les villes pour avoir le chemin total le plus court possible. Ça, c'est un exemple de problème. Le problème que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas du tout celui-là. Dans le problème du voyageur de commerce, les routes existent déjà. Ici, non, je vais prendre un problème où les routes n'existent pas. Et il s'agit de trouver les meilleures routes pour joindre plusieurs points. Donc c'est un problème qui a été étudié par un mathématicien allemand, ou suisse, je crois, donc, du 19e, qui s'appelle Jacob Steiner, et donc ça s'appelle le problème de Steiner. Donc, le cas le plus simple, c'est le problème où il y a trois points. Donc imaginez que ces trois points-là, c'est trois villes qui sont dans le désert, il n'y a absolument aucune infrastructure autour de ces villes-là. Et puis les habitants de ces trois villes se sont mis d'accord pour essayer de créer des routes qui joignent les trois villes. Vraiment, les routes, ça coûte très cher. Et on voudrait créer le moins de kilomètres possible pour que qu'on puisse aller d'une ville à une autre sans problème, mais avoir le moins de bitume possible à utiliser. Donc c'est ça, on cherche un chemin qui soit le plus court possible et qui joigne les trois routes, les trois villes, pardon. Donc, comment analyser ce problème-là? Bon, on sait que forcément, il doit exister une façon d'aller de A à B, ce que j'ai représenté ici, et puis il doit y avoir forcément une façon d'aller de C à cet ensemble-là, formé de A et B et de la route ici. Donc j'ai représenté ça comme ça, donc j'appelle S le chemin, le point où tous ces chemins-là se rencontrent. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai fixé le point S ici, tant qu'à faire, pour aller de A à S, j'ai oublié de dire que je suis revenu à la géométrie euclidienne ici. On est dans un problème de géométrie euclidienne. Donc pour aller de A à S maintenant, évidemment, tant qu'à faire, je vais faire un segment de droite. Et puis pareil, pour aller de C à S et pour aller de B à S. Donc à partir de là, je dois tracer trois segments de droite. Et donc le problème qui se pose, simplement, c'est trouver quel est le bon point S pour minimiser mon problème. D'accord ? Donc quel est le point S, étant donné mes points A, B et C, quel est le point S qui va minimiser la somme de distances AS plus BS plus CS ? Ok, alors je ne vais pas résoudre ce problème-là mathématiquement, je vais vous montrer juste les photos d'une expérience qui permet de résoudre ce problème-là. Alors, l'expérience, ça se fait avec des bulles de savon. Alors, pourquoi des bulles de savon? Parce que les films de savon, ils ont des propriétés physiques extrêmement spéciales. Le film de savon, quand on plonge une courbe à l'intérieur d'une solution savonneuse, quand on la ressort, le film de savon qui va se former, il va s'accrocher à la courbe, et il va adopter une forme bien précise qui a cette propriété de minimiser la surface totale. Donc parmi toutes les surfaces qui s'accrochent à cette courbe, il va minimiser la surface. Donc c'est ce qui se passe, par exemple, si on plonge une courbe un peu tordue comme ça. Donc la forme adoptée par le film de Savon, ça va être la surface d'air minimale qui va s'accrocher sur le contour. Donc pour ça, les mathématiciens ont appelé ce genre de surface des surfaces minimales. C'est simple. Et donc, le film de Savon, il sait parfaitement résoudre ce problème-là. Et donc, on va utiliser cette capacité du Savon à résoudre ce genre de problème d'optimisation pour résoudre notre problème de ville. Alors, comment on fait ? On a fait un petit bricolage comme ça. On a matérialisé les trois villes par trois petites chevilles cylindriques, comme ça, qu'on a coincées entre deux plaques de plexiglas. Et une fois qu'on va plonger l'ensemble dans de l'eau savonneuse, en fait, le film de savon va s'accrocher à la fois sur les trois villes et puis sur la plaque de plexiglas. Il va adopter la surface d'air minimal. Et en fait, l'air minimal, ça va être exactement, vous allez voir, ça va correspondre à l'optimum au niveau du trajet. Voilà ce que fait le film de savon quand on plonge dedans. Alors, peut-être que ce n'est pas super évident sur la photo, mais en fait, ce qu'on peut mesurer, c'est que ici, on a trois angles qui sont tous égaux à 120 degrés. Et donc, voilà la solution du problème d'optimisation de Steiner pour trois points. Le point optimum, ici, ça va être le point sous lequel les trois points A, B et C sont vus avec des angles égaux de 120 degrés. Dans ce cas-là, il y a une unique solution. Ouais. Ouais. Alors pour trois points, ouais, il y a toujours une unique solution. Alors, il y a un cas un petit peu particulier, c'est que, imaginez que, bon, si mon point A, ici, je le fais bouger sur cette demi-droite, ici. Vous voyez que le point S, lui, il ne va pas bouger. D'accord ? Les points vont toujours être vus sous l'angle de 120 degrés. Par contre, si mon point A, il s'approche du point S, ok, alors ça va, le point S ne bouge toujours pas, mais imaginez qu'il dépasse le point S de l'autre côté. Okay, alors là, ça va être un petit peu plus... On ne va pas, évidemment, aller au-delà du point A. Donc, on a un cas particulier qui est le cas où il y a un des points qui voit les deux autres sous un angle qui est plus grand que 120 degrés. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de point S qu'on peut créer. Et la solution optimale, ça va être de créer une route qui va de C à A et puis après de A à B. Okay. Donc ça, c'est le problème de Steiner pour trois points. Donc ça, on peut le résoudre mathématiquement. On peut prouver, évidemment, que ce point S, c'est le point optimal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend plus que quatre points ? Imaginez, au lieu d'avoir trois villes, j'ai quatre villes. Alors là, si on a quatre villes, on voit qu'il va y avoir deux points qui vont être ajoutés au réseau. Et à chaque fois, la solution, en chacun des points qui a été rajouté, toujours on va faire trois angles de 120 degrés. C'est vraiment une solution localement qui a toujours cette même forme. Ouais, c'est toujours la même chose. Ouais. Donc avec quatre points qui sont disposés en carré, comme ça, donc voilà à quoi ressemble la solution. Et maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre arbitraire de points ? Donc imaginez, par exemple, là, c'est une carte des États-Unis où on a sélectionné un certain nombre de villes. Et imaginons qu'il n'y ait pas encore de voie ferrée, par exemple, aux États-Unis, et qu'on veuille complètement créer un réseau ferré de longueur la plus petite possible, mais qui relie chaque ville à toutes les autres. Donc il va falloir faire intervenir un certain nombre de points supplémentaires, qui s'appellent les points de Steiner, ici. Et alors, on peut essayer de dire, c'est bien, le savon, il sait résoudre ce genre de problème d'optimisation. Et donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait, mais des gens qui ont fait cette expérience-là. Donc voilà ce genre de choses qui va sortir. Alors, vous voyez que, par exemple, ici ou là, il y a des points supplémentaires qui sont créés. Et toujours, de ces points-là, il y a toujours trois angles de 120 degrés qui sont arrivés, bien sûr. Le problème, c'est que ce n'est pas obligatoirement la solution optimale. C'est-à-dire que c'est une solution qui va être localement optimale. C'est-à-dire que si je la perturbe un peu, je vais toujours augmenter la longueur du chemin. Mais rien ne dit que le savon a pris vraiment la solution optimale. Parce qu'en fait, là où on doit poser les points supplémentaires, c'est absolument impossible de le savoir. Comme ça. Donc c'est un problème qui est extrêmement difficile. Donc on peut essayer de résoudre avec un ordinateur, mais qui nécessite une puissance de calcul déraisonnable. Donc savoir où on doit rajouter les points supplémentaires pour optimiser ce réseau, c'est un problème qui, à l'heure actuelle, est insoluble en totalité. Donc on ne sait que trouver des solutions approchées. Bon, et puis on va terminer l'exposé avec cette dernière question qui est comment trouver le plus court chemin en voiture? Donc, le plus court chemin en voiture, évidemment, souvent, ce n'est pas celui qui prend le moins de kilomètres. Ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse quand on est en voiture. C'est souvent celui qui va prendre le moins de temps possible. Donc, c'est une autre mesure de la distance, mais qui est souvent la mesure qu'on a, nous, en tant qu'utilisateurs, qui est la plus importante pour nous. Comment je vais faire pour rentrer chez moi le plus vite possible, pour aller à tel rendez-vous le plus vite possible. Évidemment, on est souvent coincé dans ce genre d'embouteillage. À chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour résoudre les problèmes d'embouteillage? Alors, quelle est la solution qui vient naturellement, mais, et d'ailleurs qui est employée régulièrement? Qu'est-ce qu'on fait? On va construire des nouvelles routes. On va construire des rocades, on va construire des routes supplémentaires pour délester les voies qui sont embouteillées. Okay. Alors, pareil, a priori, ça semble une solution complètement raisonnable, du moment qu'on peut le faire. Et on va voir qu'il y a derrière un paradoxe, en fait. Alors, pour illustrer ce paradoxe, je vais prendre cet exemple-là, qui est un exemple réel. Donc, ça s'est passé, je crois, en 1990 à New York. Donc, il y avait une des rues de New York, une des rues qui est vraiment beaucoup employée par les voitures. Il y a beaucoup de trafic dans cette rue-là, qui est la 42e rue. Et à l'occasion de la fête de la Terre, en 1990, donc je ne sais pas pour quelle raison précise, ils avaient décidé de fermer cette 42e rue. Donc là, c'était la panique totale. Ils se sont dit, on va fermer cette rue par laquelle passent des milliers de voitures tous les jours. Ça va créer des embouteillages pas possibles dans New York. Et la grande surprise de tout le monde, le jour où on a fermé la 42e rue, la circulation a été plus fluide que d'habitude. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on pense que c'est l'illustration d'un phénomène qui avait été découvert en 1968, par un mathématicien allemand qui s'appelle Debrez. Et lui, il a énoncé son paradoxe sous la forme inverse, qui est que si on ajoute une nouvelle route à un réseau routier qui existe déjà, il est possible, dans certains cas, que le temps moyen mis par les usagers pour faire leur trajet habituel augmente. C'est-à-dire qu'on avait un réseau, je mettais un certain temps pour aller d'un point A à un point B, je rajoute une route au réseau là et je vais mettre plus longtemps pour aller de point A au point B. Donc ça semble vraiment paradoxal. Donc je vais vous montrer sur un exemple précis, évidemment un exemple simple, mais pourquoi ce genre de choses peut arriver. Alors voilà le réseau sur lequel on se place. Donc alors, on va vraiment simplifier les choses. On va imaginer que toutes les voitures qu'on considère partent de ce point-là, mettons, c'est la ville où les gens habitent, et puis ils vont aller à ce point-là, c'est la ville où les gens travaillent. Et en fait, il y a deux chemins possibles pour aller du lieu d'habitation au lieu de travail. Donc, ce premier qui passe par le haut et ce deuxième qui passe par le bas. Et puis, alors, il y a deux sortes de routes. Alors, vous avez des grandes routes ici. Donc, c'est des routes qui sont suffisamment larges. Et peu importe le nombre de voitures qui vont passer dedans, bon, le temps qu'on va mettre pour faire ce parcours-là, ce trajet-là, va être constant à peu près. Donc on a compté qu'il y avait toujours une heure pour aller de ce point-là à ce point-là. Et pareil, pour aller de ce point-là à ce point-là, tout le monde met une heure, quelles que soient les conditions de circulation. Par contre, il y a des routes ici qui sont un petit peu plus, disons, un peu plus étroites. Et vous voyez, quand la route est un peu étroite, évidemment, plus il y a de monde qui va s'engager dans cette route-là, et plus on va mettre de temps pour franchir ce passage. Donc on a une formule peut-être un peu simple, mais pourquoi pas réaliste, qui dit maintenant quel temps on va mettre pour aller de ce point-là à ce point-là. Donc c'est exprimé en heures, et le temps il va être proportionnel au nombre de voitures, disons, qui vont effectuer ce trajet dans la matinée. Donc là, on a estimé que le temps, c'était n sur 1000 en heure. Alors imaginez que tous les jours, j'ai 1000 véhicules qui doivent faire ce trajet-là. Alors vous voyez que les deux trajets, donc soit celui qui va vers le haut, soit celui qui est vers le bas, ils ont l'air réellement symétriques. On ne voit pas lequel privilégié par rapport à l'autre. D'accord? Parce qu'on a deux bouts qui sont vraiment de même nature dans chacun des deux. Donc Sur les 1000 véhicules, il n'y a pas tellement de raisons de choisir plutôt l'un que plutôt l'autre. Donc les gens vont choisir plus ou moins au hasard. Et donc on peut raisonnablement penser qu'il y aura environ 500 véhicules qui vont passer au-dessus et 500 véhicules qui vont passer en dessous. Donc puisqu'il y a 500 véhicules qui passent au-dessus, ça veut dire que dans ce trajet-là, là, j'ai n qui vaut 500. Donc ici, je vais mettre 30 minutes pour faire ce bout de trajet-là. Donc mon temps de trajet en passant par le haut, ça va être 1h30. Et pareil, en passant par le bas, ici, je vais mettre 30 minutes aussi, c'est 1h30. Donc dans cette configuration de réseau qui est ici, à peu près tout le monde va mettre 1h30 pour faire le trajet. Et puis, un jour, on a construit une nouvelle jonction qui est en fait ultra rapide. En fait, on ne se rend pas compte, mais ces deux points qui étaient là étaient en fait assez proches. Et cette jonction-là est super rapide, ce qui fait qu'on peut négliger le temps qu'on met pour aller d'un point à un autre. Donc on va, pour simplifier, supposer que c'est un temps nul. Alors maintenant, imaginez que je suis à la place d'un utilisateur qui veut emprunter ce réseau-là. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a plein de chemins possibles. Soit je passe par le haut, soit je passe par le bas, soit je fais ça, je prends ma jonction ultra rapide et je fais ça. Vous voyez ? Alors, comment on va raisonner ? On dit que, de toute façon, ce morceau qui est ici, là, je mets toujours 1 heure pour le faire. Ce morceau qui est là, je mets toujours au plus 1 heure. Je mets, au pire, je vais mettre 1 heure, mais en général, je vais mettre moins. Bon, après, ces deux points-là, finalement, c'est comme si c'était le même point, puisque j'ai un temps nul pour aller de l'un à l'autre. Et puis après, entre celui-là qui met toujours 1 heure et celui-là qui met toujours moins d'une heure, évidemment, j'ai plutôt tendance à prendre celui du bas. Ce qui fait que moi, je veux optimiser mon temps de trajet. Évidemment, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais aller pas en haut, je vais prendre cette jonction ultra rapide et je vais faire ça. Normal, c'est vraiment la meilleure solution pour moi. Seulement, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer ? Les 1000 véhicules vont faire ça. Okay ? Et les 1000 véhicules vont faire ça, ce qui fait que ici, donc 1000 véhicules vont passer ici, donc ils vont mettre 1 heure pour faire ce temps de trajet-là. Bon, la jonction ultra rapide, ils vont la faire rapidement, et puis ils vont mettre 1 heure aussi de l'autre côté. Ce qui fait que dans ce circuit où tout le monde mettait 1h30 avant qu'on construise la jonction, maintenant tout le monde met 2 heures. Okay ? Donc c'est ce paradoxe-là qui a été mis en évidence par M. De Bresse. Alors, plusieurs commentaires ici qu'on peut faire. D'abord, on est dans une situation qui relève d'une branche des mathématiques et de la sociologie qui s'appelle la théorie des jeux. C'est-à-dire que ici, chacun participe à un jeu qui est OK, j'essaye d'optimiser mon temps de trajet. J'essaye de tenir compte de ce que vont faire les autres pour optimiser pour eux-mêmes. Et moi, je vais choisir le circuit, le trajet qui va être le plus court pour moi. Donc en faisant ça, j'essaye de trouver une stratégie qui va optimiser mon temps de trajet. Et chacun va adopter une stratégie qui est rationnelle, qui est la meilleure pour lui, qui est de prendre tout ça. Et finalement, chacun essayant d'optimiser sa propre solution va créer une solution qui est pire pour tout le monde. Donc ça, c'est une situation qui est bien connue en théorie des jeux, qui est illustrée par une autre situation qui s'appelle le dilemme de prisonnier. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. Donc c'est une situation pareille où finalement chacun essaye d'aller au mieux de ses intérêts et en faisant ça, rend la situation pire pour tout le monde, y compris pour lui. Donc c'est vraiment une situation intéressante d'un point de vue de théorie des jeux. Et un dernier commentaire, c'est on pourrait se dire, bah, finalement, cet exemple-là, il est OK, ça marche bien, mais ça a l'air quand même assez artificiel comme exemple. Est-ce que vraiment ça arrive dans la vie courante ? Mais il y a eu des tas d'études très précises qui ont été faites sur des plans de ville réels, dans lesquels ils ont pris les statistiques de trafic, ils ont pris les temps de trajet en fonction du nombre de voitures, etc. Et ils se sont interrogés, est-ce que effectivement ce paradoxe apparaît ? Et il apparaît que effectivement ce genre de situation est très courante. C'est-à-dire que ça arrive dans à peu près la moitié des cas. Bon, ça veut dire que voilà, si on veut construire une route à un moment, il faut peut-être se poser la question de quelles vont être les conséquences. Voilà, bon, c'était la fin de mon exposé. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez quelques questions, je peux essayer d'y répondre.